Médien.
Média. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'héritage, de transmission, de deuil et d'amour pour son pays. On y va pour les détails.
Média. Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Sarah Fakhir, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Sarah ?
Ça va très bien, merci.
Alors, vous pensez que vous auriez entrepris ce que vous avez entrepris, et on va expliquer à notre communauté de femmes d'aujourd'hui ce que vous avez entrepris, justement, si vous n'aviez pas quitté le Maroc et si vous n'aviez pas eu des enfants dans un autre pays ?
C'est une très bonne question et je crois que c'est vraiment la question essentielle qui répond à celle de la genèse de Dardilay, puisqu'effectivement, moi je suis née et j'ai grandi au Maroc, donc j'ai toujours eu un lien particulier avec mon pays comme la plupart des Marocains, mais je ne réalisais pas à ce moment-là en grandissant, lorsque j'ai quitté Marrakech à 18 ans, que le Maroc me manquerait autant, jusqu'au moment où effectivement j'ai eu des enfants et j'ai eu des enfants à l'étranger. Donc je parlais toujours, moi j'ai fait le lycée français, donc je parlais beaucoup un mélange d'Alija et de français. Et je me suis retrouvée au moment de la naissance de mon aîné à parler quasi exclusivement d'Alija avec lui. Mmh. C'était quelque chose de viscéral. Donc non, pour répondre à votre question, certainement pas.
Ouais. Et donc en fait, vous dites c'est viscéral, c'est inconscient, ça a été inconscient au départ ce besoin de transmission ?
Oui, c'était assez inconscient. Moi, je pense que déjà, très jeune, je rêvais de... J'avais des grandes ambitions, j'avais une fibre artistique, une fibre littéraire. J'ai toujours été entourée de livres et un peu perdue dans mon imagination. Et je pense, je le crois vraiment fortement, que nos rêves nous poursuivent jusqu'au bout. Mmh. Donc, quelque part, ils nous rattrapent. Et on ne le réalise presque pas, c'est quelque chose de totalement inconscient. Alors effectivement, mon aîné, je l'ai eu, j'étais installée à Chypre. Je n'étais pas encore installée à Londres.
Okay.
Et il y a autre chose aussi qui est très importante, je pense, dans la genèse de ce projet, c'est que simultanément à la naissance de mon aîné, je perdais ma mère, la rahma. Et je crois qu'on dit que souvent, ce sont deux éléments assez constitutifs de l'identité d'une femme. C'est le moment où elle devient elle-même mère et le moment où elle perd sa mère. Mmh. Moi, ces deux événements, ces grands bouleversements dans ma vie sont arrivés de manière simultanée. Et ce qu'il s'est passé, c'est quelque chose de presque magique. Et quand j'emploie le terme magique, c'est vraiment dans son acception large et de spirituel, de transcendant. C'est que j'ai senti vraiment le besoin de me reconnecter à mon identité marocaine pour transmettre quelque chose de moi, de mon pays, de ma mère, la Hamra, de ma famille. Et voilà, c'est né comme ça, sans que je comprenne vraiment comment. Et au départ, c'était juste un besoin personnel, enfin une histoire tout à fait banale, en somme, liée à mon histoire propre, l'envie de transmettre ma Darija, ma langue, ma culture à mon enfant. Et la suite, ça a été d'arriver quelques années plus tard.
Alors, votre aîné, il a quel âge aujourd'hui ?
Aujourd'hui, il a 5 ans.
Il a 5 ans. Il parle Darija ?
Oui, de plus en plus. Ça a été difficile au départ, parce que comme tous les parents qui vivent à l'étranger, les parents de la diaspora, on vit dans un environnement qui n'est pas l'environnement marocain. On n'a pas les ressources, on n'a pas la famille autour. Et puis la langue dominante prend souvent le dessus. Donc malgré mes efforts, au départ, ça a été assez difficile de communiquer avec lui en Darija. Et puis j'avais lu beaucoup d'articles sur le fait que les enfants ont besoin d'uniformité, ils ont besoin de se conformer à la société dans laquelle ils vivent. Donc pour lui, répondre en Darija, c'était être différent des autres enfants.
Ouais.
Et c'est aussi la raison pour laquelle je me suis vraiment intéressée à ce sujet et qui a mené au projet sur lequel je travaille.
Alors,
aujourd'hui, j'ai un deuxième enfant, et cet enfant, qui n'a même pas 2 ans, parle beaucoup mieux la Darija, la comprend beaucoup mieux que mon aîné. Et mon aîné, Eh bien, il suit par mimétisme.
Absolument. Parfois, le deuxième, c'est finalement lui qui déteint sur le premier, sur l'aîné. C'est pas forcément l'inverse.
Tout à fait,
ouais,
tout à fait.
Ouais. Alors, ce projet, c'est quoi exactement? Donc, ça a commencé par la naissance, la perte de votre maman, ce besoin viscéral de transmettre votre culture, votre dialecte natal, Darija. Vous avez commencé à parler à votre bébé en Darija. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Alors, j'ai commencé à lui parler en Darija. Il me venait aussi des chansons, pas forcément des comptines populaires marocaines, mais des chansons avec lesquelles j'avais grandi, des chansons qui m'évoquaient vraiment la nostalgie. Et puis, ce qui était un peu difficile pour moi, c'est que j'avais plus ma maman pour lui poser les questions. Donc, je me suis mise à faire des recherches, à essayer de me plonger dans les archives et à essayer de retrouver tout ce patrimoine oral, finalement, parce que c'est aussi ça le vrai sujet, c'est que la majorité de nos textes font partie du patrimoine oral,
c'est ça.
Et on trouve très peu de textes. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut le transcrire, il faut le mettre quelque part. Et je me suis dit vraiment très égoïstement, je vais faire ça pour mon fils. Donc je vais faire une petite histoire, je vais l'imprimer sur un papier glacé, et ça restera dans la famille. J'ai appelé mes tantes, mes cousines qui étaient au Maroc pour leur poser des questions, pour avoir un peu plus de texte et de consistance. Et puis, au fur et à mesure, à force d'en parler autour de moi, cette idée a trouvé écho, notamment auprès de mes amis qui habitaient aussi à l'étranger et qui, en parallèle, commençaient à devenir parents à leur tour. Et ils me disaient, mais fais-en un livre, nous serons les premiers à l'acheter, fais-en un podcast si tu veux. Enfin, il y avait beaucoup de propositions qui m'ont plu. Et puis quelques années plus tard, je me suis intéressée un peu plus au sujet. Donc au départ, je souffrais de ce syndrome de l'imposteur. Ce n'est pas ma place.
Oui. Alors on va y aller petit à petit. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez fait votre deuil à travers ce travail-là, en fait, le deuil de votre maman à travers ce travail-là, et qu'à la limite, votre enfant était l'alibi pour le faire de cette manière.
Très probablement. Je me suis pas jamais posé la question de cette manière, mais c'est vrai que ça m'amène à réfléchir sur la question. Parce que c'est vrai que nos parents, on les connaît à travers notre regard d'enfant. On ne connaît pas leur histoire personnelle. Et c'est vrai qu'à partir du moment où ils ne sont plus là, on les voit autrement. Et très probablement, la naissance de mon fils a été un élément déclencheur qui m'a ramenée à elle. Et à son histoire. Et elle, en plus, elle était professeure d'histoire. Donc, elle aimait les mots, elle aimait les histoires. Et c'était une conteuse incroyable. Donc, toutes les histoires que j'ai de mon enfance, c'est à travers elle, même si j'en ai oublié beaucoup, malheureusement. Mais oui, c'est un point qui est très juste, probablement. De toute façon, on dit toujours que l'écriture est un exutoire. Alors, ça peut être la littérature adulte, ça peut être aussi... à travers la création artistique et pourquoi pas en racontant son histoire à son enfant, c'est vrai, c'est juste.
Aujourd'hui, ça donne quoi? Mais finalement, c'est parti très vite parce que votre petit est né, enfin l'aîné est né il y a 5 ans. 5 ans, c'est pas beaucoup, hein, entre la maternité, l'engagement de la maternité, l'arrivée du deuxième, le travail de mémoire, le travail d'histoire, parce que vous avez fait les choses sérieusement, en fait. Donc, en fait, c'est parti très vite, en quelque sorte. Pour donner quoi aujourd'hui?
Alors, très vite, oui, tout est relatif, effectivement.
Vu le contexte, en fait, avec un premier bébé, un deuxième bébé, des déménagements, enfin, c'est parti quand même vite.
Oui, c'est vrai, c'est pas faux. En réalité, moi, je suis une perfectionniste et j'ai tendance à trouver que c'est un défaut. Mais dans ce cas en particulier, ça a été plutôt une caractéristique de ma personnalité qui a été un atout, puisque ça m'a permis déjà d'approfondir la question, de me renseigner, de me former. J'ai suivi pas mal de formations en linguistique. Bon, je n'ai pas de diplôme, je ne peux pas me vanter d'être une experte sur le sujet. En tout cas, j'ai essayé de comprendre comment le langage s'acquiert et j'ai aussi creusé le sujet le débat, vous savez, Fusha, Darija. Est-ce qu'il vaut mieux apprendre la Fusha à son enfant ou la Darija? Et finalement, j'ai suivi mon instinct parce que je pense, en tout cas, c'est mon expérience personnelle et celle des parents avec lesquels j'ai pu échanger. La Darija, c'est la langue de l'affect. C'est vraiment la langue du quotidien. C'est celle qui permet d'accéder à notre culture. Donc, j'ai travaillé sur tous ces sujets-là pendant ces années. Effectivement, c'était compliqué de jongler maternité, travail à mi-temps, puisque j'avais quand même un emploi.
OK.
Et lancer Darlilay. Et donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, Darlilay, c'est une petite maison en auto-édition. Et notre particularité, c'est que nous produisons des livres sonores.
OK. En Darija?
En Darija, mais aussi en français et en anglais. C'est-à-dire que l'idée, c'était de faciliter et de donner des ressources aux parents qui souhaitent transmettre leur langue et à travers elle leur culture. Donc des outils qui soient ludiques, qui soient de beaux objets. Parce que pour moi, c'était extrêmement important que l'enfant, que mes enfants d'abord et ceux des autres, puissent avoir entre les mains un bel objet et non pas un papier. Et le côté sonore, c'est aussi pour le côté interactif. Alors, je crois qu'on est dans un monde où on est entouré par les écrans et de plus en plus de parents s'opposent à l'utilisation des écrans. Je pense tomber dans la même catégorie. Et je trouvais que le livre sonore permettait de faire le lien entre ce besoin d'autonomie, d'interactivité,
tout
en restant dans quelque chose de classique, en fait. Un livre vraiment physique, qu'on puisse toucher, qu'on puisse voir, des boutons, donc on entend les voix. Il y a des voix natives, marocaines, des illustrations qui sont faites dans un contexte marocain et non pas biaisé par un regard occidental.
Est-ce que là, vous vous sentez en fait avoir rempli votre rôle de mère dans cette lignée de transmission? Vous avez fait ce que vous aviez à faire?
Alors, je ne sais pas si le travail est accompli, mais en tous les cas, c'est ce qui me donne la motivation le matin de me réveiller. Et une des plus grandes réussites que je considère, qui me rend fière en tout cas en tant que maman, c'est que mon aînée, qui n'a jamais rencontré ma propre mère, me parle d'elle comme si elle était encore là, à travers les histoires que je lui raconte. pour l'anecdote, j'ai un parfum qui est à base de fleurs d'oranger, et quand il me prend dans ses bras, il me dit que ça lui fait penser au Maroc.
D'accord.
Et on en parle beaucoup de la fleur d'oranger, on en parle beaucoup à travers mes livres, mais pas seulement, du Maroc, de ses odeurs, de ses couleurs. Et oui, quelque part, j'espère en tout cas que je suis en train d'accomplir ce devoir de transmission, pour ma famille en tout cas, et puis je l'espère pour d'autres familles.
Sarah, enfin, je vais vous poser une question peut-être un peu trop intime. Vous êtes heureuse là où vous êtes?
Vous voulez dire dans la situation actuelle ou dans la géographie actuelle?
Dans votre géographie actuelle.
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je ne sais pas comment y répondre. Mais je dirais que oui. Je dirais que oui. Londres, c'est une ville extraordinaire, avec une ville qui permet l'épanouissement des familles. Il nous manque beaucoup de choses. Le Maroc en fait partie. Le lien avec la famille, et je me sentirai toujours quelque part une exilée que je ne vis pas dans mon pays d'origine et qu'il m'appartient, mais en plus je lui appartiens. Il n'y a pas plus loin que, pas plus tard que pendant les dernières fêtes religieuses, je me suis retrouvée un énorme chagrin à écouter Skara et ses chansons. J'en ai beaucoup parlé avec mes amis qui étaient au Maroc, parce qu'il y a des moments comme ça qui me renvoient à l'absent.
Ouais.
Et l'absent, c'est ma mère, bien sûr, mais c'est aussi le Maroc. Vraiment, le Maroc fait partie de moi et m'habite.
À travers votre mère, justement.
À travers ma mère, mais pas seulement. Je pense que ce que j'ai réalisé aussi à travers ce projet, c'est que nous, Marocains du monde, avons un amour que je n'imaginais pas à notre pays. Alors, est-ce que c'est le fait de vivre à l'étranger? Est-ce que c'est le fait de, d'être coupé de son pays, de sa culture, de ses instincts finalement, parce que être à l'étranger, ce n'est pas être au Maroc. Notre identité marocaine, elle est là, mais on n'est pas dans une forme de comment dire d'alignement identitaire total. C'est comme si on était dans un rôle quelque part qui est nous, mais qui n'est pas tout à fait nous.
Parce que vous n'êtes pas dans votre milieu naturel, en quelque sorte.
Tout à fait, tout à fait. Donc oui, bien sûr, c'est lié à la mère, c'est lié à la famille, mais c'est aussi lié au pays. Ça, j'en ai aucun doute aujourd'hui.
Peut-être pour finir, si on peut aborder aussi ce deuil. Vous avez perdu votre maman juste avant la naissance de votre enfant, c'est ça ?
C'est ça.
C'est ça. Ça arrive à certaines femmes de notre communauté qui sont en train peut-être de vivre cette situation. Vous l'avez dépassée comment ? C'est vrai qu'il y a eu tout ce travail de mémoire, etc. Mais vous avez senti ces émotions-là, vous les avez expérimentées. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à elles aujourd'hui ?
C'est quelque chose de fondamental. C'est un événement majeur dans la vie d'une femme. Et en particulier, comme vous l'avez dit, lorsqu'on devient mère soi-même, il n'y a pas de secret. On veut dire quelque chose de très bateau, le temps aide, le temps aide à guérir la blessure, mais je crois que c'est aussi, et je vais utiliser ce mot sciemment, c'est aussi une opportunité de se reconnecter à la femme et non pas seulement à la mère qu'elle a été, et d'essayer de réparer quelque chose, de réparer des blessures qui sont familiales et de restaurer quelque chose de la mémoire, et c'est ce qui permet, en tout cas moi qui étais quelqu'un qui avait énormément de contrôle sur mes émotions, je me suis vraiment laissée à ce deuil, contrairement à ce qu'on me disait autour de moi, d'être forte, je me suis vraiment laissée aller dans le deuil et dans les émotions, et aujourd'hui, ma mère est toujours ma boussole. Elle me manque évidemment, mais je sais qu'elle est là. Elle est là à travers ce travail que j'ai fait sur ses livres, mais pas seulement. Elle est aussi là à travers le travail de deuil que j'ai fait et de reconnexion avec la femme, la petite fille, la Marocaine qu'elle était. Et oui, c'est une blessure, une blessure éternelle, mais avec laquelle on apprend à vivre et qui parfois peut être aussi... On peut aider à traverser d'autres moments plus difficiles dans la vie parce que malheureusement, il y en a et il y en aura d'autres.
Alors, vous avez dit jouer aussi ce rôle de réparation. Vous auriez voulu réparer ces choses-là de son vivant ?
C'est difficile. On a toujours des regrets, on a toujours envie de réparer le passé, mais c'est un objectif, c'est quelque chose d'impossible. On ne peut pas revenir en arrière. Et je pense que moi, j'ai accepté qu'il y a des choses que je ne peux pas réparer et que justement, la transmission, c'est la réparation. La transmission en soi, c'est dans la filiation, c'est réparer le futur. Au final, moi aussi, j'ai des blessures qui ont été héritées de ma mère, de mes ancêtres. Et j'espère que ces blessures ne seront pas transmises à mes enfants. Je pense que c'est dans notre descendance, sur le très long terme, qu'on répare les blessures. Il y a des rêves qui n'ont pas été réalisés, ceux de ma mère, ceux de ma grand-mère avant elle, les miens aussi, quelque part, puisque il y a certainement certains rêves que je n'ai pas pu réaliser du fait de circonstances très culturelles. Et j'espère qu'à travers moi, mes enfants bénéficieront de ce travail de réparation. Et ainsi de suite, la lignée pourra elle aussi un jour être libérée de toutes ces petites blessures.
C'est aussi un travail qu'on fait pour nos propres enfants, en fait.
Tout à fait, tout à fait. Ouais. On le fait pour la postérité.
Ouais. Pour nos enfants, pour pas leur transmettre justement cet héritage.
C'est bien ça.
Je vous ai un peu bousculée pendant cet entretien, Sarah. Vous vouliez parler que de culture, mais... Forcément, on ne peut pas rester superficiel dans Femmes d'aujourd'hui, parce que c'est un tout, on est un tout. Est-ce que, je suis désolée, est-ce que je vous ai perturbée avec mes questions ?
Un peu, mais je pense que c'est un travail essentiel, puisque la littérature, c'est quelque part aussi les blessures, et c'est intrinsèquement lié, donc On ne peut pas parler livre sans parler d'histoire personnelle et intime.
Sarah Fakir, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médias et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médias Podcast et les plateformes de podcast habituelles.